Vous êtes sur RTL.
Ouverte ce week-end. RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h21, bonjour Frédéric Adnet.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis, également directeur du SAMU de ce département. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. J'ai une première question à vous poser, elle est très simple avant qu'on commente les chiffres, la situation. C'est la première fois que vous êtes confronté à une crise de ce type, crise sanitaire de ce type?
Alors j'ai déjà été confronté à des crises sanitaires, mais de cette envergure, une crise sanitaire qui vient désorganiser l'hôpital, qui fait appel à nos ressources les plus profondes, puisqu'on rappelle du personnel, puisqu'on fait intervenir des internes, des étudiants hospitaliers. Non, c'est la première fois que je vis le début de cette crise, puisqu'on en est quand même au début. C'est pour moi une situation assez déstabilisante, très prenante et, on va dire, un petit peu inquiétante quand même.
Vous êtes inquiet ?
Oui.
Je vous pose la question simplement, voilà.
Oui, je suis clairement inquiet parce que c'est quand même une épidémie qui a un taux de mortalité qui est quand même supérieur à celle de la grippe. C'est une épidémie qui va intéresser probablement beaucoup, beaucoup de citoyens et qui va avoir probablement un impact majeur sur nos structures hospitalières. Alors, on se prépare. Est-ce qu'on est prêt ? Ben ça, on va le savoir dans un proche avenir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour nous, professionnels de santé.
Excusez-moi de l'exprimer ainsi, mais en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de médecine de guerre. En tout cas, qu'on s'organise de façon quasi martiale pour affronter l'ennemi. Vous comprenez ma remarque ? Enfin...
De toute façon, toute la médecine, c'est une organisation martiale contre la maladie, contre la mort. et notre métier, c'est justement une lutte, une lutte pour la vie et une lutte contre la mort. Là, on a un véritable défi, nous, professionnels de santé. Un défi organisationnel, un défi, on va dire aussi, sur les traitements, puisque c'est une épidémie pour laquelle on n'a pas de traitement. Pour nous, médecins, il est facile, quand on a une maladie, d'avoir un traitement. Ici, on fait du traitement, ce qu'on appelle du traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on accueille les patients et on essaye qu'ils ne s'aggravent pas. Mais on n'a pas trouvé encore la molécule qui va tuer le coronavirus.
Donc on est bien d'accord, on n'en fait pas trop en ce moment. Je veux dire, il y a d'un côté l'anxiété de la société française, mais la mise en place, les recommandations et l'ensemble du mouvement qui se crée en ce moment dans la société française vous semble légitime.
L'inquiétude est légitime. Toute épidémie engendre des peurs irrationnelles et des peurs ancestrales. On a tous, quand on était enfant, vu les livres d'histoire avec la peste, les gens qui meurent dans les villes. Donc, il y a une part de peur irrationnelle. Mais on a des plans pour vaincre cette épidémie. C'est une montée progressive en puissance de nos systèmes hospitaliers pour faire face à un éventuel afflux de patients.
Je vais y revenir dans un instant. Au moment où nous parlons, est-ce que la fréquentation dans votre service d'urgence à Bobigny est en augmentation ?
Non, parce que c'est le SAMU qui prend la première vague du recours à notre système de santé. Le système que nous avons mis en place, c'est, et tout le monde l'a bien vu, appeler le 15. Donc la structure hospitalière qui a pris de plein fouet tous les recours au système de santé français, c'est le SAMU. Et le SAMU a exercé, et c'est son rôle, un véritable triage, un véritable filtrage pour justement empêcher les patients de venir engorger les urgences et les services. Et
il a donc, pardonnez-moi, la dérivation du tuyau, j'utilise des formules de plombier, elle fonctionne. Elle est dure à gérer, mais elle fonctionne.
Elle fonctionne parfaitement. Pour vous donner un exemple, on a entre 200 et 600 appels par jour dans mon SAMU liés au coronavirus. Sur ces 200 à 600 appels, on amène environ que 10 à 20 patients à l'hôpital. Oui. Ce qui veut dire, si vous multipliez ça par le nombre de SAMU en France, ça veut dire qu'on évite à l'hôpital un engorgement par des milliers et des milliers de patients qui viendraient à l'hôpital simplement parce qu'ils sont inquiets.
Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits dans notre pays. Est-ce que c'est utile ? Voire nécessaire ?
Nous sommes en phase 2. La phase 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on espère encore retarder au maximum la phase 3, c'est-à-dire l'épidémie sur toute la France.
Pourquoi et quelle en est l'utilité justement de retarder cette phase 3 ? On pourrait se dire j'anticipe et j'y vais direct. Vous comprenez ma question ?
Tout à fait. Alors il faut absolument la retarder parce que en fait on essaye d'aplanir la courbe qui va faire que l'épidémie va augmenter très rapidement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les patients vont venir plus progressivement à l'hôpital. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous allons mettre des lits supplémentaires, des services supplémentaires, une capacité supplémentaire qu'on pourra adapter progressivement. Il n'y aurait rien de pire que tout d'un coup en 24 heures des milliers de patients arrivent à l'hôpital. Mmh. En ralentissant la courbe de l'épidémie, on va pouvoir absorber progressivement tous ces malades qui vont venir à l'hôpital.
Je ne vais pas lancer de polémique, mais c'est intéressant que vous nous disiez ça, parce que tout à l'heure, au micro d'Alba Ventura, Marine Le Pen disait exactement le contraire, en expliquant qu'il fallait anticiper, qu'on ne le faisait pas assez en ce moment. Vous nous dites en ce moment, au contraire, on a plutôt besoin de retarder le plus possible le stade 3, puis il y a un moment où il s'impose, c'est ça ?
Tout à fait. Le stade 3, ça veut dire qu'on va un petit peu changer nos façons de faire, mais le retard de retarder l'épidémie, ça veut dire absorber progressivement les malades.
En Italie, la situation est beaucoup plus inquiétante que chez nous, en tout cas au moment où nous parlons. C'est désormais le pays le plus touché après la Chine, avec un quart de sa population en quarantaine dans le nord du pays. C'est-à-dire qu'il faut des autorisations pour sortir de chez soi. On l'entendait dans un de nos reportages tout à l'heure, depuis la ville de Milan. C'est ce qui nous guette, et c'est une mesure à laquelle on peut être contraint à un moment ou à un autre.
Alors, je ne sais pas si le gouvernement fera la même chose qu'en Chine.
Votre avis de spécialiste.
Force est de constater qu'en Chine, ça a marché. C'est-à-dire que le confinement en Chine, on voit actuellement que le nombre de cas devient insignifiant, de nouveaux cas, que la mortalité diminue énormément et que si vous voulez que l'épidémie progresse dans le reste du monde en dehors de la Chine et qu'en Chine, on a l'impression, et on a eu l'impression seulement, que le pic épidémique est derrière eux. Alors, est-ce que c'est lié aux mesures de confinement extrêmes qu'a vécu la Chine ? C'est difficile de faire une relation de cause à effet. Mais on constate que l'Italie s'engage dans la même voie. Le confinement de grandes régions, c'est extrêmement difficile à mettre en place.
Oui.
Théoriquement, ça peut marcher parce qu'on va casser la transmission du virus dans son pays en dehors des régions atteintes. Est-ce qu'on va le faire en France ? Est-ce qu'on va avoir la même épidémie en France ? Seul l'avenir va nous le dire.
Il se passe des choses très impressionnantes en Italie parce que c'est quand même un grand pays moderne, quelles que soient ses difficultés. Et très clairement, on le sait, les médecins le disent maintenant, ils sont obligés de faire des choix à l'hôpital. C'est-à-dire que j'ai deux patients, un de 60 ans, un de 40 ans, excusez-moi d'être aussi direct parce que c'est un témoignage qu'il y a ce matin dans le journal La Croix. Hein. Les deux sont atteints, c'est clair qu'on va s'occuper et prendre en charge celui de 40 ans parce que son espérance de vie est plus importante que celui de 60 ans.
C'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'adaptation progressive va nous permettre d'anticiper sur le nombre de lits, le nombre de services à ouvrir. En Italie, ils ont ouvert plus de 50% de lits de réanimation.
Oui.
Ils ont acheté massivement de nouveaux respirateurs. C'est les machines qui aident les patients à respirer lorsque leurs poumons sont atteints. Ils ont embauché 20 000 soignants supplémentaires et en particulier des élèves infirmières. Donc tout ceci, l'expérience italienne va nous servir. Et déjà actuellement, à la PHP, on commence à compter, à ouvrir des nouveaux lits de réanimation.
Oui.
On a ouvert deux établissements de santé de référence en Ile-de-France.
On a du stock de lits en réserve comme ça ? Parce que excusez-moi, depuis que je suis journaliste, chaque année j'ai l'impression qu'on baisse le nombre de lits en France. Et pour tout vous dire, à une époque, on était convaincu que c'était nécessaire pour des raisons d'économie et puis parce que la médecine elle-même évoluait et que voilà, on pouvait passer à l'hôpital une demi-journée et repartir. Donc
vous avez raison, hein, le système hospitalier public en France est en grande tension, on diminue le nombre d'hôpitaux, on diminue le nombre de lits. Alors comment on va faire ? Il n'est pas question de baisser les bras, mais on va déprogrammer par exemple des patients qui devaient être hospitalisés pour une pathologie qui n'est pas grave, qui peut être reportée. Donc comme ça, on va libérer des lits. On va transformer des services de soins intensifs en véritable réanimation. On a des stocks stratégiques en France de respirateurs qui sont en parfait état de fonctionnement et qui peuvent être mobilisés rapidement. Donc on a de la réserve. Le problème, c'est bien d'adapter la mobilisation de ces réserves, la mobilisation de ces nouveaux lits qui seront libérés par des reports de programmation à l'arrivée des patients. Et on revient toujours à cette même logique de dire retardons le plus possible la phase 3 pour absorber progressivement ces patients.
Merci beaucoup d'être venu faire le point. point ce matin sur notre antenne. Je précise que vos propos, Frédéric Adnet, sont rassurants parce qu'à la fois vous nous dites que c'est grave, qu'on est confronté à quelque chose que vous n'avez pas connu, mais que ce qui se met en place correspond à une logique et que surtout nos services vont les assumer. Je vous ai bien compris.
On fait tout pour, on se prépare, on a le plan blanc, hein, vous savez, le plan Orsan REB. Donc tout ça. En théorie, c'est cadré. Et maintenant, c'est à nous de le mettre en œuvre et de le mettre en musique.
Chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes également directeur du SAMU de votre département. Je le rappelle, bonne journée à vous.
Merci.
Et bon.